Vous écoutez France Culture. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, si l'élection présidentielle du 30 décembre dernier devait a priori ouvrir la voie à la première transition pacifique du pouvoir, elle aura surtout entretenu manifestement la confusion selon les résultats publiés cette nuit par la Commission électorale nationale. L'opposant Félix Tshisekedi aurait remporté l'élection avec 38,57% des suffrages. Un résultat toutefois aussitôt contesté par un autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou. Quant au chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, il a lui-même estimé ce matin que les résultats annoncés ne semblaient pas conformes aux résultats constatés par ailleurs.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro doit prêter serment aujourd'hui pour un second mandat avec un soupçon d'illégitimité, Thomas.
Oui, soupçon qui laisse présager un plus grand isolement international, le tout dans un pays en proie à la pire crise économique de son histoire récente.
L'heure du pouvoir a enfin sonné pour Ciudadanos.
4 ans après son irruption sur la scène nationale espagnole, le parti libéral de centre droit va gouverner pour la première fois une région, l'Andalousie, mais avec l'appui pour le moins embarrassant de l'extrême droite.
Dans votre journal également, et décidément à chaque jour qui passe, la chute semble de plus en plus vertigineuse pour l'actuel PDG de Renault.
Oui, après que le tribunal de Tokyo a rejeté hier une demande de fin de détention, voilà qu'on apprend que Carlos Ghosn ne serait plus résident fiscal en France depuis 2012, mais domicilié fiscalement aux Pays-Bas, un pays connu pour ses avantages en la matière. En France, l'exécutif toujours sous pression avant le lancement mardi prochain du grand débat national. Depuis que Chantal Jouanneau y a renoncé, on ne sait toujours pas qui pilotera les échanges. Ce matin, le président du Modem, François Bayrou, a lui estimé que les maires et non la Commission nationale du débat public, dont la légitimité, dit-il, est nulle, devaient organiser cette grande consultation. Enfin, pour évoquer cette crise des gilets jaunes, invité du journal dans moins d'une demi-heure, Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Le procès Barbarin doit-il aussi être celui de l'Église? On y revient avec notre invité, la journaliste et directrice de Témoignages chrétiens, Christine Pedotti. Dans son livre « Qu'avez-vous fait de Jésus ?», elle blâme et pointe les silences coupables de l'Église et interpelle les responsables de l'Église à réagir. Elle leur demande une réaction.
Merci et à tout à l'heure. Parce que pour la première fois de l'histoire du pays, un président sortant avait accepté de se retirer sous la pression du droit et non des armes. L'élection présidentielle organisée en République démocratique du Congo s'avérait d'ores et déjà comme un événement sans précédent. Or ce matin, voilà que ce scrutin, 3 fois reporté, a vu sa portée historique se doubler de l'annonce pour la première fois de la victoire d'un candidat de l'opposition. Un véritable coup de tonnerre pour le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, selon la commission électorale et au terme d'une très longue attente. Félix Tshisekedi, 55 ans, arriverait en effet en tête avec 38,57% des voix. Arriverait, car en réalité, ses résultats ne correspondraient pas au décompte effectué de son côté par la conférence épiscopale, laquelle attribue la victoire à un autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou. Ce dernier a aussitôt dénoncé un putsch électoral. Les résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes, a encore précisé celui qui en réalité est aujourd'hui soutenu par les principaux rivaux du pouvoir sortant. Et c'est d'ailleurs bien en cela que les résultats annoncés ce matin alimentent la suspicion. Ces derniers jours, Félix Tshisekedi, le candidat de l'opposition déclaré provisoirement vainqueur ce matin de l'élection, avait tendu la main à l'ex-président Joseph Kabila, laissant entendre que des négociations secrètes auraient pu être menées en vue d'un partage du pouvoir. Les explications à Kinshasa de notre correspondant Anthony Fouchard.
Très tôt ce matin, quelques minutes à peine après la publication des résultats, Martin Fayoulou, le principal candidat de l'opposition, a dénoncé un putsch électoral. Une forfaiture, dit-il, qui ne correspond pas au vote des Congolais. Largement battu dans les urnes, la majorité présidentielle n'a pas eu le choix. Joseph Kabila a dû se résoudre à négocier avec l'opposition. Il a fallu choisir un camp et le régime a manœuvré intelligemment en approchant Félix Tshisekedi, un opposant certes, mais donné perdant et donc beaucoup plus à l'écoute et favorable au compromis. Qu'est-ce qui a été consenti? On l'ignore encore, mais c'est bien Tshisekedi qui a été déclaré vainqueur par une commission électorale sujette à caution. Et pour cause, les observateurs catholiques, ils étaient 40 000 déployés dans le pays, n'ont pas du tout obtenu les mêmes données que la commission. Pour eux, c'est Martin Fayoulou le vainqueur et l'écart des voix entre lui et Félix Tshisekedi est minime et ouvre d'ailleurs la porte à toutes les contestations. La Cour constitutionnelle devrait être saisie, mais en cas d'annulation, par exemple, du scrutin, eh bien c'est Joseph Kabila qui resterait encore au pouvoir pour au moins quelques mois.
Alors dès ce matin, la France, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé que les résultats de l'élection n'étaient pas conformes aux attentes et que l'opposant Martin Fayoulou était a priori le vainqueur. Comment expliquer une prise de position aussi rapide? Valérie Crova a posé la question à Gérard Gérold, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste de l'Afrique centrale.
Je pense que les diplomates en poste à Kinshasa ont eu des échanges avec la mission d'observation de l'Église catholique et que la mission d'observation de la CENCO a expliqué sa méthodologie, a montré les résultats qu'elle avait obtenus à travers les procès-verbaux des bureaux de vote et à travers le travail d'échantillonnage qu'ils ont réalisé, d'ailleurs avec l'aide de la Fondation Carter, qui est une fondation d'observation électorale qui a une grande expérience à la matière, et peut-être que les missions diplomatiques ont été relativement convaincues par ce que leur a exposé la mission d'observation de la CENCO. Alors on pourrait expliquer peut-être la prise de position de Monsieur Le Drian par cet élément-là.
Gérard Gérold, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, il répondait à Valérie Crova. C'est une mesure révolutionnaire que le Parlement indien a adoptée la nuit dernière. La création de quotas pour les hautes castes à bas revenus, 10% des postes dans les administrations, les universités publiques pourront désormais leur être réservés. Alors en réalité, il s'agit davantage d'une contre-révolution dans la mesure où les quotas ont été initialement mis en place pour favoriser plutôt les basses castes exclues socialement. Un renversement de paradigme en somme essentiellement destiné à attirer les électeurs des hautes castes à 5 mois maintenant des élections législatives. Si dans son acception courante, le terme de révolution désigne généralement une rupture étymologiquement, en revanche, la révolution s'entend comme un retour sur soi. Et cette contradiction interroge notamment au pays de la révolution bolivarienne, où les appels à ne pas reconnaître la légitimité du successeur désigné d'Hugo Chavez se multiplient. Pour son deuxième mandat, le président Nicolas Maduro a d'ailleurs choisi de prêter serment aujourd'hui devant la Cour suprême et non devant le Parlement, contrôlé par l'opposition, signe que la situation actuelle du chef de l'État paraît de plus en plus inconfortable. À ce titre, d'ailleurs, on notera également que le juge du Tribunal suprême de justice a lui décidé de s'exiler aux États-Unis parce qu'il refusait de valider la prestation de serment de Nicolas Maduro. C'est une correspondance à Caracas signée Benjamin Delisle.
C'est depuis les États-Unis où il s'est enfui avec sa femme et ses enfants que le juge Christian Serpa s'est exprimé.
Le président Nicolas Maduro ne mérite pas un second mandat car son élection n'a pas été libre et représentative. J'ai donc décidé de ne pas reconnaître l'investiture de Nicolas Maduro.
Le tribunal suprême de justice n'a pas tardé à réagir, accusant le magistrat d'avoir quitté le Venezuela car il était visé par une enquête pour harcèlement sexuel. Pourtant, il n'est pas le seul à juger le président vénézuélien illégitime. Élu président de l'Assemblée nationale samedi dernier, Juan Guaido a promis de mettre en place un gouvernement de transition et de convoquer des élections libres.
À partir du 10 janvier, cette Assemblée nationale, en tant qu'unique pouvoir légitime élu, assumera la représentation du peuple.
Malgré le tonnerre d'applaudissements des députés et l'hymne vénézuélien qu'ils entonnent en chœur, tout cela reste bien symbolique. Depuis 2016, toutes les décisions du Parlement sont jugées nulles par le Tribunal suprême de justice. C'est d'ailleurs face à ce tribunal, et non face au Parlement comme c'est la coutume, que Nicolas Maduro prêtera serment aujourd'hui.
Capricieux et puéril, c'est ainsi que le leader des démocrates américains au Sénat a qualifié le caractère du président Donald Trump, lequel a abruptement quitté hier une rencontre avec les ténors de l'opposition lorsque ceux-ci ont réaffirmé ne pas vouloir financer de murs à la frontière avec le Mexique. Dès lors, ce nouvel échec dans les discussions renforce l'hypothèse de voir le chef de la Maison-Blanche recourir à l'état d'urgence, une arme qui pourrait lui permettre de contourner donc le Congrès pour financer son projet. Quoi qu'il en soit, et afin de marteler une fois de plus son message sécuritaire, Donald Trump Trump a prévu de se rendre aujourd'hui au Texas, à la frontière avec le Mexique. Et puis surtout, c'est ainsi qu'en attendant une éventuelle sortie de crise, le fameux shutdown, comprenez la paralysie partielle de l'administration fédérale, se poursuit. Wall Street a inscrit hier une quatrième hausse d'affilée, portée notamment par les espoirs nés des négociations commerciales entre Washington et Pékin. Celles-ci se sont achevées en délivrant des progrès apparents sur des dossiers tels que les achats par la Chine de produits américains, mais aussi d'accès au marché chinois. En achevant ce matin une visite surprise de 4 jours en Chine, son principal soutien diplomatique et économique, le leader nord-coréen Kim Jong-un a lui fait part de sa préoccupation en revanche devant, je cite, « l'impasse dans les discussions avec les États-Unis sur la dénucléarisation de la péninsule ». Il faut dire que le sens que Pyongyang donne à ce concept de dénucléarisation pose problème à Washington, en particulier si cela doit s'accompagner d'un départ des troupes américaines basées en Corée du Sud. Et puis, autre point de blocage, quand les États-Unis martèlent que les sanctions économiques doivent être maintenues tant que le Nord n'aura pas renoncé à son arsenal atomique, Pyongyang exige au contraire leur allègement immédiat et réclame même des garanties sur sa sécurité en échange précisément de l'abandon de ses armes stratégiques. En devenant en décembre dernier la première formation d'extrême droite espagnole à entrer dans un parlement régional depuis la fin de la dictature, le parti anti-immigration Vox avait provoqué un véritable tremblement de terre, un séisme dont les dernières secousses auront conduit hier à la formation en Andalousie d'un gouvernement de coalition entre le parti conservateur PP d'un côté et le parti de centre-droit Ciudadanos de l'autre, une coalition à laquelle ne participe donc pas la formation d'extrême droite Vox, mais qui aura néanmoins été rendue possible parce qu'elle lui a apporté un soutien indispensable. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors tout d'abord, pourquoi l'extrême droite a-t-elle accepté de soutenir ce nouveau gouvernement régional sans y participer? Il semble que la réponse, Louise, soit à trouver du côté du Parti Socialiste.
Eh oui, le PSOE à la tête de la région la plus peuplée d'Espagne depuis 36 ans. L'alliance inédite conclue hier soir met donc fin à cette domination, mais au prix fort. Vox a en effet joué les faiseurs de roi et a imposé une partie des éléments centraux de son programme. Alors au regard de ses revendications initiales, l'accord semblerait presque raisonnable. Sur l'immigration, plus d'objectifs chiffrés en matière d'expulsion, mais le Parti populaire s'interdit toute mesure pouvant favoriser un appel d'air et garantit une immigration respectueuse de la culture occidentale. Concession aussi sur la limitation de l'avortement, sur l'éducation, sur le soutien aux traditions espagnoles. Bref, la corbeille de la mariée est très lourde, surtout pour Ciudadanos. La formation de centre-droit s'est d'ailleurs prudemment tenue à l'écart des négociations dont elle tire in fine bénéfice.
Alors on imagine que dans la perspective des élections européennes, cette alliance génère par ailleurs de nouvelles craintes. En particulier, peut-on d'ores et déjà en déduire des conséquences possibles pour Emmanuel Macron?
Oui, absolument, parce que Ciudadanos est un allié du président français et de son parti En Marche dans la perspective des européennes de mai. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en France, on tord le nez devant la cuisine andalouse. Pas d'accord avec l'extrême droite, a enjoint il y a 2 jours la ministre aux Affaires européennes Nathalie Loiseau. Ce n'est pas anodin de travailler avec un parti d'extrême droite, a renchéri hier l'Elysée, tout en se défendant aujourd'hui d'interférer dans les affaires espagnoles. Emmanuel Macron a donc du souci à se faire, mais peut-être pas autant que Manuel Valls, l'ex-premier ministre français, candidat, vous le savez, à la mairie de Barcelone. Ciudadanos, c'est l'un de ses rares soutiens officiels, compliqué pour celui qui, selon un proche, devra et saura réaffirmer ses positions très fermes contre les extrêmes.
Merci Louise Baudet. Quand l'actualité internationale pourrait bien là encore trouver des raisons de raisonner en France, Carlos Ghosn, l'ancien président de Nissan, mais toujours actuel PDG de Renault et de l'alliance Renault-Nissan, devrait être inculpé aujourd'hui de 2 chefs d'accusation supplémentaires par le parquet de Tokyo, où quand l'ex-commandeur n'en finit plus de chuter de son piédestal. Et puis autre information qui risque d'entamer un peu plus encore l'image du magnat de l'automobile, voilà qu'on apprend que Carlos Ghosn ne serait plus résident fiscal en France depuis 2012. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors, les Pays-Bas sont au sein de l'Union Européenne, on le sait, un pays réputé pour ses avantages fiscaux plus importants. Et puis il se trouve que c'est également aux Pays-Bas qu'est installé le siège social de la holding qui depuis 2002 coiffe l'alliance entre les deux constructeurs automobiles Renault et Nissan.
Et oui, c'est ce qui permet aux constructeurs de payer moins d'impôts, mais aussi à son dirigeant Carlos Ghosn, qui a vu ses salaires exploser ces dernières années. Aujourd'hui, il dépasse les 15 15 millions d'euros annuels, ce qui en fait l'un des patrons du CAC 40 les mieux payés. Il faut savoir que les Pays-Bas ont, depuis très longtemps, mis en place un système fiscal très avantageux. Les conventions fiscales sont négociées directement avec les entreprises, ce qui permet d'avoir eh bien, des avantages considérables, une largesse et une flexibilité qui dépassent même celle de l'Irlande, où l'impôt sur les sociétés est l'un des moins importants d'Europe, pourtant avec 12,5%. C'est dire, sauf qu'il est le même pour tout le monde en Irlande, contrairement aux Pays-Bas. Alors, pour justifier le fait de payer ses impôts aux Pays-Bas, le PDG de Renault louerait un appartement standing à Amsterdam depuis 2002, officiellement pour ses réunions avec l'Alliance, quand il y en a, avec un loyer de 8000 euros par mois payé par Nissan, s'il vous plaît. Sauf qu'en vérité, il servirait juste d'adresse fiscale, car pour ne pas payer ses impôts en France, il faut y vivre moins de 6 mois par an. Une décision prise en 2012, après l'arrivée de François Hollande, qui avait indiqué qu'il ne retirait pas l'ISF et surtout qu'il mettrait en place une taxe exceptionnelle pour les très hauts salaires, ce qu'il ne fera pas par la suite. Du côté de Bercy, on indique faire valoir le secret fiscal, idem pour Renault, qui indique ne pas être au courant.
Merci Hakim Kasmi. Alors comme un cauchemar sans fin et dans le contexte actuel de la crise des Gilets jaunes, réclamant davantage de justice fiscale, on imagine que si ces dernières révélations venaient à se confirmer, elles ne seraient pas franchement de nature à calmer la colère qui gronde. Quoi qu'il en soit, et pour l'heure, afin de tenter de clore définitivement ce chapitre, l'exécutif mise désormais sur le lancement mardi prochain du fameux grand débat national. Reste que le flou persiste encore quant à l'efficacité présumée de cette consultation. Tout d'abord parce qu'après que Chantal Jouanneau y a renoncé, on ne sait toujours pas qui pilotera les échanges. Et puis, la question se pose de savoir si les résultats de cette consultation pourront influer in fine sur le cap général que l'exécutif ne semble pas enclin pour l'instant à vouloir modifier. C'est d'ailleurs le sens de l'inquiétude formulée aujourd'hui par un certain nombre d'élus locaux, à l'instar de Christophe Bouillon, interrogé ce matin chez nos confrères de France Info. Le président de l'Association des Petites Villes de France a expliqué qu'il n'entendait pas servir la soupe du gouvernement. On l'écoute.
D'abord, on n'est pas là pour ni pour servir la soupe à qui que ce soit, ni pour se voir refiler le bébé, si vous me permettez l'expression. La vérité, c'est que les communes, bien évidemment, et les maires ont des choses à dire, d'ailleurs, parce que il s'agit pas pour nous d'être simplement les supplétifs ou ceux qui prêtent des salles, mettent du chauffage et allument la lumière. On souhaite s'engager dans ce débat en ayant des propositions. D'ailleurs, l'Association des Petites Villes de France, la semaine prochaine, proposera un nouveau pacte territorial avec beaucoup de propositions sur l'accès aux soins, sur les mobilités, sur la question de la revitalisation des centres-bourgs. Il ne faut pas qu'on soit là les bras croisés ou les bras ballants. Il faut qu'on soit dedans et pas à côté du débat. Vous savez, les élus locaux, ils sont habitués à des grandes concertations. Ce n'est pas la première fois qu'on les sollicite, qu'on les invite même à participer à des débats, à des réunions, à des rencontres. La vérité, c'est qu'il faut qu'il y ait un débouché. Pour pas que ce grand débat soit quelque part une forme de grande mascarade, il faut qu'on soit aussi précis sur ce qu'on va en faire.
Christophe Bouillon, donc président de l'Association des Petites Villes de France. Et pour évoquer toujours ce grand débat national, donc invité aujourd'hui Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avec moi en studio pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question toutefois monsieur Fesneau, avant de nous intéresser donc à ce grand débat. Que vous inspirent ces dernières révélations s'agissant de la domiciliation fiscale de Carlos Ghosn aux Pays-Bas?
Elle nous inspire et elle m'inspire du scandale comme tous les Français qui l'écoutent. Il y avait le niveau de rémunération et désormais la volonté d'échapper à l'impôt. Et c'est pour ça que ce qu'a dit le Président de la République, y compris au mois de décembre, quand il s'est exprimé sur un certain nombre de mesures et les exigences qu'il a souhaité porter en termes de fiscalisation au domicile, si je peux dire, de ceux qui sont les chefs de grandes entreprises en France, prennent tout leur sens et donc il faudra qu'on légifère pour ne pas se retrouver dans des situations comme ça, parce que on a une double incompréhension sur le niveau de rémunération d'abord et puis une deuxième incompréhension à ce niveau de rémunération qu'on essaie par tout moyen d'échapper à l'impôt. Et donc c'est une question de justice, c'est une question de justice fiscale et d'une certaine façon de paix fiscale dans les esprits, parce que qu'on gagne de l'argent c'est une chose et qu'on paye aussi beaucoup d'impôts quand on gagne beaucoup d'argent c'est une chose qui est assez légitime.
Une question de Stéphane Robert.
Pour rester sur cette question des niveaux de rémunération, celui de Chantal Jouanneau, alors c'est sans commune mesure évidemment avec ce que touche Carlos Ghosn, mais ça a posé un certain nombre de questions en France. Ça a conduit Chantal Jouanneau, présidente de la commission du débat public, à renoncer à organiser ce grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Ce matin, Benjamin Griveaux et Marlène Schiappa l'invite à tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire à démissionner de sa fonction. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle doit démissionner?
Moi, c'est les... Chantal Jeannot est une femme libre, c'est une autorité indépendante. Et donc, dans le mot indépendance, il y a tout ce que ça veut dire. Chantal Jeannot tirera les conclusions qu'elle veut de tout ça, mais je ne veux pas rentrer dans ce genre d'exercice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse nourrir le débat, que le débat national que nous souhaitons engager avec le gouvernement, avec le président de la République et le Premier ministre, puisse se faire dans de bonnes conditions. Et c'est plutôt ça qui me préoccupe que de savoir le sort des uns ou des autres. Le débat, c'est un débat national, c'est un débat avec les citoyens, un débat avec les maires, on y reviendra sans doute, et avec les territoires d'une façon générale. Et donc, il faut qu'on puisse le faire dans les meilleures conditions possibles. Je prends acte de la décision de Chantal Jeannot, mais je ne vais pas plus loin. Je pense que ça, c'est pas ce qui préoccupe principalement les concitoyens. Nos concitoyens, c'est à la fois que l'ordre puisse régner dans le territoire, parce qu'il y a des manifestations qui parfois tournent très violemment, et puis deux, qu'on puisse enfin engager ce débat national sur un certain nombre de thématiques pour faire en sorte qu'on sorte le pays de cette crise, et puis globalement qu'on puisse se donner une orientation collective. On a besoin de retrouver du collectif dans le moment qu'on vit.
Est-ce que cette commission est légitime pour l'organiser? François Bayrou disait ce matin, président du Modem, vous le connaissez bien, François Bayrou, que cette commission n'a pas de légitimité, il faut laisser ça aux maires.
C'était, je crois que François Bayrou voulait exprimer l'idée que la légitimité démocratique, non. C'est une institution que, d'ailleurs, sans doute un certain nombre de ceux qui nous écoutent ont pu découvrir seulement au moment où elle a été désignée et mise en avant. Elle sert souvent, pour dire des choses, plutôt à faire des débats publics autour de grandes infrastructures, des lignes TGV, il y a de grands projets. Notre-Dame-des-Landes avait saisi, il avait été saisi par la Commission nationale du débat public. Donc c'est plutôt sa fonction première. La légitimité qu'elle a, c'est une légitimité à la capacité d'organisation. Elle a les outils méthodologiques pour le faire. Mais la légitimité démocratique, elle est d'abord celle des élus, celle aussi des citoyens, de pouvoir se saisir des questions. Et donc c'est deux sujets-là qu'il faut distinguer. Je pense que on a besoin de garants du bon exercice du débat, on a besoin de méthodologie, c'est ce qu'apportait la conférence, la commission du débat public, et ces éléments-là, on les garde, puisque ces éléments-là, ils ont été préparés. Et puis, on a besoin aussi que les citoyens et les élus locaux puissent, avec nous, se saisir de la question.
Alors, pour ce qui concerne les élus locaux, on a entendu Christophe Bouillon, président de l'Association des petites villes de France, il y a quelques instants. Quel rôle sera dévolu au maire, au-delà d'allumer la lumière et de mettre le chauffage?
D'abord, Christophe Bouillon, j'aurais salué la responsabilité qui a été la sienne au mois de décembre, comme celle de Vanick Berberian, le président des maires ruraux de France, et d'un certain nombre de maires par initiative personnelle qui a dit « on ouvre le mairie, on ouvre des cahiers de doléances » parce que la mairie, la commune, c'est un échelon de proximité, un échelon auquel les citoyens se confrontent assez régulièrement, au bon sens du terme. Le mot « confrontation » est un sens positif dans ma bouche. Et donc il faut que les mairies soient le réceptacle et le lieu où on pourra nourrir le débat. Et Christophe Bouillon dit dans l'extrait que vous avez passé, la volonté qu'ils ont, les maires des petites villes, mais beaucoup de maires aussi, de participer au débat. Non pas participer en étant les boucs émissaires de la situation dans laquelle on est, mais de participer parce qu'il y a un certain nombre de questions qui appellent des réponses nationales. Il y a un certain nombre de questions qui appellent des réponses probablement locales, mais ça ne veut pas dire que l'État se désengage pour autant. Et puis il y a des réponses qui nécessitent un travail collectif entre l'État et les collectivités locales. Il y a qu'une société française, il y a qu'une nation française. Il n'y a pas d'un côté les collectivités locales et de l'autre côté l'État. Il faut qu'on cesse cette césure-là et que certains essaient d'alimenter. Il y a besoin de tout le monde. Pour refaire du collectif, on a besoin de tout le monde, on a besoin des maires. Et donc les maires, ils doivent être là. Moi, je pense. J'ai été maire pendant 10 ans, j'ai été conseiller municipal un peu plus longtemps. Ils sont là avec, je crois, la volonté qu'ils ont toujours, et qu'ils ont toujours eu, pour l'avoir pratiqué moi-même, de dialoguer avec les citoyens, de faciliter le dialogue. Ils sont là pour être des facilitateurs. Et puis, sur un certain nombre de sujets, de porter les éléments qu'ils portent. Christophe Bouillon porte.
Donc, de poser sur la table
un certain nombre de choses. Vous voyez bien que dans la crise, quand on regarde la géographie de la crise, si je peux dire, la géographie de la mobilisation, c'est pour beaucoup des territoires qui avaient été un peu perdus, qui avait été abandonné en termes de services publics, qui avait été abandonné en termes de désertification médicale. C'est ce que dit en particulier Christophe Bouillon, la question de la désertification médicale. Vous voyez bien que c'est un sujet qui relève pour une part du national et pour une part du travail que nous ferons avec les collectivités locales. Et donc c'est très bien qu'ils puissent se saisir de la question et qu'ils eux aussi fassent remonter ce qui est leur sentiment d'abandon. Parce qu'il y a un certain nombre de petites villes, de territoires ruraux et d'autres qui ont le sentiment d'abandon. Donc on a besoin de travailler ensemble. Et ce débat national, ça doit être une occasion de retravailler ensemble pour essayer de résoudre des problèmes qui n'ont pas été résolus depuis 20 ou 30 ans.
Ce que dit Christophe Bouillon notamment aussi, c'est qu'il faut d'ores et déjà dire ce qu'on va faire de tout ça.
Ben, ce qu'on va en faire, le Premier ministre l'a dit, on va pas dire ce qu'on va faire, parce que si on dit ce qu'on va faire, on va nous dire qu'on tronque le débat. Ce qu'on va en faire, c'est que sur un certain nombre de sujets, ça réouvrira sans doute des sujets. Les sujets territoriaux vont sans doute être réouverts par cette question territoriale, par cette question du débat territorial. Parce qu'on avait plutôt fait le choix de dire on laisse les collectivités tranquilles, on va pas refaire une grande réforme. Mais il y a sans doute des aménagements, des simplifications, des conséquences à tirer des lois qui ont été votées successivement sans donner forcément un sens, qu'il faudra tirer de ce débat territorial. Ça, c'est des champs qui seront peut-être nouvellement ouverts par le débat qui aura lieu. Et
puis il faut trancher ça par un référendum à choix multiple, par exemple.
Ça dépend. Moi, je pense qu'il y a des questions, en particulier les questions institutionnelles, qui peuvent être par référendum. On peut pas non plus dans un référendum traiter toutes les questions. D'abord, je pense que le Conseil constitutionnel nous appellerait à la clarification des questions posées. Le référendum marche si les questions sont posées de façon claire. Ça, c'est notre responsabilité. Et si on n'est pas sur tous les sujets à la fois. Puis il y a des sujets qui sont plus lourds et on ne règle pas par référendum toutes les questions. Il y a une démocratie représentative. Il faut aussi la réhabiliter. Il faut que les parlementaires participent au débat. C'est d'ailleurs la volonté de beaucoup d'entre eux, en particulier de ceux de la majorité, participer comme représentant les citoyens, au milieu des citoyens et voulant porter la volonté des citoyens. Et pour dire un deuxième élément, il y a aussi un certain nombre de textes qui vont être sur la table dans les mois qui viennent, et sur lesquels il y a la loi d'orientation des mobilités. Vous voyez bien que la question des mobilités est une question centrale dans notre débat. Il y a la question de la transition écologique. À nous de saisir les éléments du débat qui seront saillants pour faire en sorte que nous puissions les transcrire, si je peux dire, dans la loi. Et ça, c'est le rôle de la démocratie parlementaire.
Et on terminera là-dessus. Merci Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, d'avoir été en direct avec nous.
Merci
à Stéphane Robert. Un mot rapide de météo avec le retour du soleil sur la majeure partie du pays, même si des nuages bas persisteront du centre-est au grand est, ainsi que près des côtes de la Manche. Quant aux températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 2 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.